Alors, donc cette fois-ci, nous allons aborder le sujet de la connaissance de Dieu par la prière. Donc, on a beaucoup étudié Dieu dans ce qu'il est, dans ses relations, dans les personnes. Et là, aujourd'hui, c'est un peu plus comment on peut accéder à Dieu et finalement comment on peut le connaître. Alors, on peut dire déjà que connaître Dieu, c'est ce que veut beaucoup, enfin l'homme en général veut ça. Cependant, souvent, c'est pas exactement connaître Dieu, c'est plutôt un désir qui est orienté vers la connaissance du futur, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Et on a aussi la logique que c'est souvent Attends. 2 secondes. Et du coup, c'est souvent une connaissance qui finalement est réservée aux initiés, qui savent interpréter les paroles, les capter, etc. Donc en fait, quand on regarde les prophètes bibliques, eux, ils entendent directement la parole de Dieu. Donc il y a une parole qui est compréhensible, qui est raisonnable, et en plus qui est assez cohérente quand on regarde les différents prophètes au fil des temps. Voilà, on a un discours qui est très cohérent et qui est tout à fait compréhensible. Donc nous cherchons à rencontrer Dieu, à le connaître tel qu'il est. Alors le terme de connaître, aujourd'hui, on a souvent une interprétation assez intellectuelle de la chose. Connaître, voilà, c'est raisonnable, la raison, comment accéder à la connaissance. Alors que dans la Bible, connaître, c'est vraiment faire l'expérience d'eux. Et donc on a une vraie connaissance qui prend tout l'être, qui est à la fois sensible et intellectuelle. Donc on va d'abord regarder un peu dans la Bible qu'est-ce que c'est que cette connaissance, c'est quoi le cadre de cette connaissance. Et puis après on abordera deux thématiques qui sont plus mystiques. D'un côté la montée spirituelle, donc comme s'il y avait une graduation pour aller vers Dieu. Et puis l'oraison et le rôle du Saint-Esprit. Alors tout d'abord la connaissance. Donc ce que nous montre la Bible, c'est que la connaissance n'est pas purement intellectuelle. Elle se fait contemplation et elle embarque tout l'être. Donc quand on a le premier texte dans la Genèse, Adam connut sa femme, bah voilà, connu sa femme, c'est dans tous les sens du terme, et c'est y compris sexuellement. Donc on est vraiment sur une expérience intime qui entraîne tout l'être. On a d'autres expressions comme par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Et là, en fait, quand on dit par la connaissance, c'est tout simplement que le serviteur, il souffre. Voilà, donc c'est faire l'expérience de la souffrance et concrètement souffrir. De la même façon, le Seigneur a fait connaître sa victoire, c'est qu'il a rendu Israël victorieux. Donc on a aussi l'idée de connaître, qui est entendre de ses oreilles, voire de ses yeux. Donc il y a une sorte de relation personnelle. Ce n'est pas une connaissance différée ou diffractée. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ça, c'est dans Job. Et à contrario, parce que souvent la négation permet d'expliquer les choses, ne pas connaître, c'est refuser, ignorer. Donc on a le psaume 101 avec Loin de moi le cœur tortueux, le méchant, je ne le connais pas. Et aussi dans Osée, ils n'ont pas connu que je prenais soin d'eux. Donc on a vraiment cette connaissance qui est vraiment une expérience, voilà, qui traverse tout l'être. La théologie monastique au Moyen-Âge est comme une science expérimentale finalement de la vie spirituelle. Donc elle embarque toute cette chose-là et c'est comme un peu expérimenter, comment expérimenter la vie spirituelle. Et donc on n'est pas du tout dans le sens moderne où l'expérience est souvent une expérience aussi de ressenti. Donc là on a vraiment l'expérience comme une traversée, faire la traversée et être traversée. Alors ensuite, si on avance un tout petit peu, connaître, c'est très intimement lié à la vie. Puisque connaître Dieu, c'est vivre. La connaissance nous fait entrer dans la vie. Donc on a toutes les phrases de Jean, on en a déjà parcouru un certain nombre dans les cours précédents. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu. Et puis là, dans le pèlerinage avec le thème de l'espérance, on était exactement là-dessus. Voilà, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous le fait connaître. Donc on a vraiment cette relation à Dieu qui est cette connaissance de Dieu, qui est quasiment de voir Dieu. Et on a ce rapport entre la vie qui est de connaître Dieu, et donc la vie éternelle qui nous permettra de le voir vraiment. La mission du Verbe est aussi de nous faire connaître le Père, et donc finalement toute la révélation a pour but de nous révéler le Père et le Fils, et du coup de nous faire connaître. Donc la révélation est très liée à la connaissance. Et on a une phrase de la lettre aux Philippiens. « Désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Donc tout en haut de la pyramide de ce qu'on peut faire, on a cette connaissance de Jésus. Et donc on voit que le thème de connaître, je ne sais pas combien de fois le mot connaître apparaît dans la Bible, mais en tout cas il y a énormément de références sur la connaissance rapportée à Dieu. Alors comment on connaît ? Donc c'est par la foi qu'on connaît, c'est la seule approche possible. On voit dans l'épisode de la guérison de l'aveugle-né que l'aveugle-né reconnaît Jésus comme Seigneur après avoir proclamé sa foi. « Je crois, Seigneur ». Et donc c'est à ce moment-là qu'il peut être guéri et qu'il est vraiment qu'il connaît Jésus en tant que Dieu. La foi en Jésus est donc la clé de la connaissance de Dieu. Bon, c'est par le Fils que nous est révélé le Père et par lui que nous pouvons le connaître. C'est aussi tout le discours avec Philippe sur montre-nous qui est le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, mais qui me voit, voit le Père. Donc on a aussi cette idée de connaître et de voir par Jésus, de pouvoir découvrir le Père. Et on a aussi ces réciproques, c'est-à-dire à la fois on connaît Jésus et donc on connaît par Jésus le Père, mais aussi en fait ça nous fait nous connaître nous-mêmes. Donc la connaissance, elle est bien liée à une relation et pas seulement à quelque chose à sens unique ou une connaissance. Donc on n'est vraiment pas dans la connaissance intellectuelle, on est vraiment dans une expérience. Puisque là, on a vraiment cette dimension relationnelle. Parce qu'on essaye de découvrir et qu'on connaît mieux Jésus et donc le Père, à ce moment-là, on se connaît aussi soi-même. Parce que finalement, c'est Jésus qui nous connaît et c'est le Père qui nous connaît. Donc il y a la très belle phrase de 1 Corinthiens, « Je connaîtrai comme je suis connu ». Qui peut être un résumé de notre vie éternelle. On a la connaître, c'est aussi contempler. Alors on a beaucoup ce thème-là chez les pères grecs. Alors on a d'abord Saint Irénée, hein, qui est toujours en plus la référence à une carême, donc du coup je ne peux pas ne pas le citer. Attends, je vais sauter un peu trop vite. La vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Voilà, et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc on est vraiment sur cette thématique de contemplation qui, chez Saint Irénée, est assez équivalente à connaître Dieu. Le terme de contemplation vient, en grec, ça veut dire théoria. Donc c'est ce qui a donné le mot spectacle, théa, le théâtre. Voilà, donc c'est comme un spectacle, mais un spectacle qui n'est pas juste... on regarde quelque chose qui se passe, qui est extérieur à nous, mais comme une tension vers, tous les sens sont en éveil, et une forme d'agir qui est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe et de participer à ce qui se passe et ce qu'on est en train de contempler. Donc c'est tout le thème de l'illumination. Nous avons été, donc ça c'est une phrase de Saint Clément d'Alexandrie, nous avons été illuminés, c'est-à-dire que nous avons connu Dieu, et celui-là n'est pas imparfait qui a connu ce qui est parfait. Baptisés, nous sommes illuminés. Illuminés, nous sommes adoptés. Adoptés, nous sommes portés à la perfection. Et devenus parfaits, nous sommes immortalisés. Donc il y a bien toute cette graduation et tout ce déploiement de la contemplation pour connaître Dieu. Et finalement, toujours avec cette réciproque, puisqu'on est dans une relation. Pour saint Thomas d'Aquin, la contemplation est un avant-goût de la béatitude. Donc on a à la fois un acte de l'esprit qui fixe et maintient un objet intelligible dans son seul but, donc il est tendu vers un but, donc c'est un acte d'intelligence, mais qui est mu par l'amour de son objet qui est Dieu. Et donc c'est un mix, et donc c'est là où on parle d'expérience, entre l'intelligence et l'amour, la contemplation, et porte cela, la connaissance, car l'esprit essaie de comprendre, et donc on n'est pas dans une contemplation un peu éthérée, on contemple ce qui se passe d'un air un peu étranger, avec le regard vide, mais au contraire, la contemplation, elle embarque tout l'être, et elle est très active, finalement. Voilà. Mais elle reçoit l'autre comme le contempler comme extérieur à nous, et donc pour le connaître, il faut regarder, il faut essayer de rentrer dans cette intimité, il faut essayer de comprendre, il faut écouter. Tout cela permet de connaître. Alors c'est assez drôle, on peut dire. Parce qu'en fait, on pourrait dire que connaître Dieu, bah, comment est-ce qu'on peut parler Dieu qui est complètement indicible, même dans Jésus fait chair, c'est difficile de parler de Dieu. Voilà, notre parole, elle est quand même assez, pauvre pour dire ça. Et pourtant, comme la contemplation embarque l'intelligence, et puis parce que aussi, finalement, Jésus est le Verbe incarné, donc la parole a sens, en fait, on exprime par le langage qui est Dieu. On essaye de formuler dans des mots quelle est notre connaissance de Dieu. Et donc, c'est un peu la grandeur de l'homme de pouvoir parler de Dieu, ce qui est assez paradoxal. Et donc, le père de Certeau, dont je ne me souviens plus quel siècle il est, je crois que c'est 19e, l'explicite dans sa fable mystique, où il parle des formulations paradoxales contradictoires, comme ténèbres lumineuses, délectables blessures, cruelles paix, qui tentent en fait, par ces formules paradoxales et ces paradoxes, de tenter de cerner l'impensable, l'indicible, qui pourtant fait tellement parler. Et donc on voit que dans tous les mystiques ont fait des grandes envolées lyriques en donnant plein de mots et en essayant de raconter cette expérience, de dire qui est Dieu et donc de dire l'indicible. L'expérience de l'autre, un désir absolu, donc on a vraiment cette expérience des théologiens et des mystiques qui nous font des grandes envolées, des longs poèmes pour parler de Dieu, pour dire Dieu, pour écouter ce que dit Dieu. Donc on essaye de tout retranscrire. Donc on a le prototype dans les confessions de Saint-Augustin qui sont comme un grand dialogue avec Dieu. Finalement, il parle de lui et de son expérience, mais finalement, il y a plein de paroles. Quand il vous dit « Je vous ai aimé tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, je vous ai aimé tard », voilà, il s'adresse à Dieu. Donc en fait, on est dans ce grand dialogue. Même un Saint-Anselme qui est assez, parfois un peu, très sur l'intelligence, etc., tout d'un coup, il part dans une grande envolée en parlant à Dieu. Et donc, on a cette imprégnation, en fait, de pouvoir parler de Dieu et donc de dire notre connaissance, finalement, de Dieu. Et la théologie, c'est exactement ça, puisque c'est, avant d'être un discours sur Dieu, c'est le discours de Dieu. C'est essayer de retranscrire ce que nous dit Dieu de lui-même, finalement. C'est d'expliciter la révélation. Et on se souvient que la première parole dans le schéma Israël, c'est « Écoute Israël ». Donc, il y a bien ce côté « écouter », mais derrière, il y a aussi dire, annoncer la bonne nouvelle, etc. Donc on est vraiment dans ce recevoir, et donc dans, quelque part, la première partie de la contemplation qui se retourne après en action pour un retour, et dans cette relation des deux côtés. Alors, on va un peu plus parler de... Alors là, on parle dans les grands mystiques, mais finalement qui sont accessibles à tout le monde, puisque tout le monde peut participer à ça, qui sont sur l'ascension spirituelle. Donc là, on va regarder différentes manières de parler de cette ascension et de cette idée de progrès. Donc dans le thème de l'espérance, là, du pèlerinage de Chartres, on avait beaucoup opposé le progrès scientifique à finalement la liberté de chacun qui remettait un peu les choses en cours. Et bien là, il y a aussi une idée de progrès avec cette ascension spirituelle, mais à prendre aussi avec des pincettes. Donc on va creuser un petit peu plus ce point-là. Alors déjà, le thème de l'échelle. Donc on a la fameuse échelle de Jacob, donc, qui a donné matière à beaucoup de réflexions sur cette accession, puisque l'échelle de Jacob, elle est entre... Donc je redis le texte. « Il y eut un songe, voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. » Donc on a cette « comment accéder au ciel, qui est la demeure de Dieu ?» Et du coup, on a l'échelle qui est un peu cette idée de grimper des degrés pour aller vers le ciel. Donc Saint Augustin nous met aussi emploie à peu près les mêmes expressions. Nous nous promenâmes par des échelons des corps jusqu'aux espaces. Donc il y a la même idée. Et montant encore plus haut dans nos pensées, dans nos paroles, dans l'admiration de vos œuvres, nous traversâmes nos âmes pour atteindre bien au-delà cette région d'inépuisable abondance. Donc là, on a cette sorte de montée vers le ciel. Voilà. Donc c'est une échelle du sensible à l'âme, quelque chose comme si on allait vers la fine pointe de l'âme, et jusqu'à la sagesse éternelle qui est Dieu. Donc Saint Augustin semble montrer qu'il y a une progression pour atteindre Dieu, qu'on passe par différents stades, comme s'il fallait quitter la région du sensible pour rencontrer Dieu, ne plus ressentir, pour enfin connaître et contempler Dieu tel qu'il est. Et donc c'est comme si en Dieu, au ciel, on atteignait une certaine stabilité, un repos, parce qu'en fait on contemple on contemple Dieu lui-même, et donc on a une forme de repos, de demeure, sous le thème de la demeure, de demeurer, béatitude, car il n'y a plus rien à désirer. Alors, il ne faut pas être non plus trop absolutiste, mais on verra avec Grégoire de Nice tout à l'heure que voilà, il ne s'agit pas d'un repos statique, donc on n'est pas arrivé, ça y est, pouf, on peut poser le sac et plus rien faire. Et donc il y a de la dynamique toujours parce qu'on est dans la relation et on est toujours dans une relation amoureuse, donc il y a toujours quelque chose à découvrir. Et puis bon, Dieu est quand même largement au-dessus de ce qu'on peut penser, donc toute l'éternité, on pourra toujours découvrir des choses. Donc l'échelle n'est pas à sens unique, il y a aussi des choses où on a accès à Dieu, et puis et après on revient aussi, parce qu'on retourne dans le monde, et en même temps, tout le monde peut avoir accès à quelque chose de Dieu. Donc il y a toujours des moyens de connaître, de pressentir, quel que soit notre degré de mysticisme ou de capacité à contempler. Alors une deuxième idée à partir de cette progression et de cette montée spirituelle, c'est Grégoire de Nice. Donc je vous ai mis en annexe un certain nombre de thèmes sur de textes de la vie de Moïse. Et donc il fait un parallèle très parlant entre l'expérience de Moïse qui monte sur la montagne au Sinaï et qui est comme son élévation vers Dieu pour rencontrer Dieu dans la nuit. Donc en fait, on a vraiment l'impression d'avoir... donc il fait un parallèle avec l'inverse de la gravitation universelle. Où en fait c'est comme si on avait une gravité spirituelle qui montait vers le haut pour nous emmener au ciel, donc l'âme s'envole et la gravité du corps qui tombe, donc on est vraiment dans les deux opposés. Donc c'est un peu cette même thématique comme une sorte d'aspiration aussi, donc à la fois c'est pas juste avec nos petits bras qu'on monte, mais c'est aussi Dieu qui vient nous chercher et qui nous attire à lui. Donc ce que montre aussi très bien Grégoire de Nice, c'est que c'est pas juste l'aboutissement. Donc on n'est pas sur une thématique où il y a la montée et puis tout en haut, enfin, on a Dieu. Non, pas du tout, puisque le guide dans la montée, c'est bien Dieu lui-même. Donc c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et donc c'est lui qui nous accompagne sur cette montée, dans cette montée, et qui finalement, le guide est déjà celui qu'on doit rencontrer. Et celui avec qui qui est le but de notre marche. Voilà. Et c'est un peu comme la nuée obscure qui accompagnait la montée de Moïse, donc la présence de Dieu qui est là. Donc il n'est pas seulement au terme, mais il est avec nous en guide. Et alors pour pouvoir vraiment suivre le guide, il suffit de faire l'expérience assez classiquement. Si on essaye de le regarder pendant qu'on le suit, il y a de fortes chances qu'on finisse dans le ravin. Donc pour le suivre, il faut marcher derrière lui. Et finalement, c'est un peu cette thématique aussi dont on ne va pas voir sa face tant qu'on n'est pas arrivé au ciel. Mais on a déjà... dans le suivre, dans le fait de le voir même de dos, et on a l'expérience des prophètes pour ça, c'est déjà une manière de le contempler. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra suivre le bon chemin et arriver au but. Alors Grégoire de Nice, il nous met une connaissance de Dieu qui est très un mouvement perpétuel, une dynamique. Donc pour lui, c'est pas du tout du statique, et il y a cette dimension un peu de parcours et cette dynamique qui est toujours présente. Ainsi, dans l'éternité du siècle sans fin, celui qui court vers toi devient toujours plus grand et plus haut que lui-même, augmentant toujours par l'accroissement des grâces. Mais comme ce qui est recherché ne comporte pas en soi de limite, Dieu, le terme de ce qui est trouvé devient pour ceux qui montent le départ, le point de départ de la découverte de bien plus élevé, et celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. C'est un texte sur le Cantique des Cantiques, avec cette très belle phrase qui a été reprise par pas mal de théologiens, de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Donc l'idée qu'on est toujours en commencement, et en même temps, on n'est pas toujours frustré. Enfin voilà, c'est pas un désir qui n'est jamais assouvi, mais c'est qu'il y a toujours plus à découvrir, puisque Dieu est largement plus grand que ce qu'on peut penser, puisqu'il n'a pas de limite. Voilà, donc à mesure qu'il se laisse atteindre, l'infini se fait et se révèle plus inaccessible. Et une autre phrase de Maître Eckhart qui est « Dans le maintenant de l'éternité, toutes choses nous seront en Dieu neuves, fraîches et présentes. » Donc il y a une vraie réalité de cette présence et en même temps, il y a toujours cette idée de renouvellement et de choses à découvrir. Donc ça, c'était un peu la montée avec tous les beaux, très beaux textes que je vous invite vraiment à lire sur la vie de Moïse de Grégoire de Nice. Alors après, une petite incursion dans la théologie mystique. Donc là, on est chez Denis l'Aéropagite. Donc il a parlé de théologie mystique, donc il a associé les deux. Donc l'idée de théologie, donc de connaissance de Dieu, et mystique, qui est l'idée de contemplation et de mystique. Donc on a bien l'ensemble des deux, puisque c'est ça la connaissance de Dieu. Et donc il nous montre que la prière chrétienne monte des degrés par-delà l'inconnaissable jusqu'à la translumineuse ténèbre du silence. Alors qui est translumineuse et ténèbre et silence, par excès de densité, ou la trinité suressentielle. Donc là on a quand même tous les mots qu'on a du mal à dire Dieu, mais je trouve que la trinité suressentielle, moi j'aime beaucoup. Les degrés de la prière et donc de la connaissance sont l'hymne liturgique, donc il y a l'idée de le rendre grâce à Dieu, louange, donc toute la louange sont déjà une forme de commencer à connaître Dieu, puisque dans la louange on s'inscrit dans la tradition de l'Église et dans le trésor de l'Église, et donc c'est une manière de connaître Dieu en le louant. La théologie affirmative, donc là on est plus un petit peu sur ce qu'on a fait pendant un certain nombre de cours entre la théologie affirmative et négative pour dire qui est Dieu et ce qu'il n'est pas. Et enfin la théologie mystique qui quelque part est comme une union pour vraiment comprendre l'essence des choses et au-delà des mots, atteindre Dieu. Donc Dieu est la cause de tout et c'est pour ça qu'on ne peut pas... Dans la véritable explication, forcément, la cause, elle est en dehors de l'explication, sinon on boucle. Voilà, et donc cette idée de Dieu qui est un peu extérieure à notre explication, mais qui est le but de cette explication. Alors ensuite, on va retourner chez saint Thomas d'Aquin, qui a beaucoup parlé des degrés de la contemplation. Donc pour lui, il a trois niveaux. Alors, il a la contemplation métaphysique de Dieu comme cause première. Donc là, on est plus sur une sorte de démarche philosophico-théologique qui essaye de comprendre Dieu, donc d'expliquer en quoi il est la cause, comment fonctionnent les choses, etc. Donc on est plus sur un discours. Ensuite, il y a une contemplation théologique et théologale, qui veut dire relationnelle, de Dieu, qui suppose la foi et normalement la charité, qui est encore assez conceptuelle, mais... qui commence à voir émerger un désir mystique d'union. Donc là, on n'est pas juste dans quelque chose on contemple ce qui se passe, on commence à rentrer dans cette idée de relation, et donc de vouloir s'unir à Dieu, et donc de vouloir s'unir à ce qu'on veut connaître, et donc c'est une plus grande intimité dans la connaissance. Et enfin, qu'il appelle la contemplation mystique de Dieu. Donc là, on est sans discours, on est au-delà du discours, et on a son fruit en elle-même, c'est-à-dire que c'est auto... Voilà, c'est une vraie... Voilà, on est en Dieu quasiment. Donc c'est comme une connaissance supraconceptuelle, hein, par naturalité affective et quasi expérimentale. Donc là on est dans les grandes expériences mystiques, elles sont attachées à ça, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans les mots, on est dans un état de présence en fait, avec Dieu. Saint Thomas d'Aquin ne met pas exactement une sorte de... Il parle de trois niveaux. Mais c'est pas, il faut pas passer par l'un et passer par l'autre. Enfin, il n'y a pas une sorte de schéma un peu précis de comment on passe de l'un à l'autre. Et on ne parle pas de la philosophie, ensuite la recherche métaphysique et ensuite l'élan mystique. Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est plutôt des choses parallèles en fait et qui se nourrissent mutuellement et qui permettent de rentrer dans des cercles. C'est sûr que probablement qu'il y a un point d'entrée qui va être plus au partir de l'intelligence et qui va aller jusqu'à quelque chose qui est plus de l'appétit spirituel dans la contemplation mystique. Mais il n'y a pas vraiment de séquence, c'est plutôt des spirales dynamiques qui s'auto-alimentent et qui permettent de se répondre. Voilà. Et on le voit ça aussi dans tous les grands mystiques qui, même quand ils ont des grands contemplations mystiques, je pense réelles, après ils repartent dans un discours où ils nous partagent par exemple cette expérience. Et donc on a quelque chose de cette spirale dynamique, en fait. Donc on s'élève jusqu'à Dieu, jusqu'au seuil de son mystère, par les degrés de l'être, et néanmoins, aucune ascension ne nous mettra de plein pied avec lui, donc il y a toujours à découvrir, et on est toujours au-delà avec Dieu. Alors, mourir au monde pour connaître Dieu, là on va parler avec Saint Jean de la Croix, donc lui dans la montée du Carmel, donc on a toujours thématique de la montée, comme on peut le voir dans les textes. Donc là, c'est quand même d'expliciter le chemin qui conduit à l'union à Dieu, puisque finalement, c'est ce à quoi nous sommes destinés. Et donc le docteur, qu'on appelle docteur mystique au passage, va expliquer et faire comprendre cette nuit obscure par laquelle l'âme passe avant de parvenir à la divine lumière de la parfaite union d'amour avec Dieu. Donc là, ce qu'il veut essayer Saint Jean de la Croix, c'est qu'il dit qu'il faut mourir à un certain nombre de choses du monde pour atteindre Dieu et pouvoir vraiment être uni à lui, ce qui est notre vocation. Donc on a plusieurs nuits par lesquelles on passe et donc on doit être transformé par dans tout notre être, et donc par les sens et par l'esprit. Donc on a deux nuits, une qui commence, qui est la plus extérieure, donc la nuit des sens. Donc là, elle met à l'épreuve notre sensibilité, l'oriente vers plus d'intériorité, vers une relation plus simple et plus gratuite avec Dieu. Donc concrètement, dans la prière, ça veut dire qu'on est dans une prière plus dépouillée, plus simple, que Saint Jean de la Croix appelle contemplation ou simple attention amoureuse à Dieu, et où on n'a pas forcément de sentiments ou d'expériences sensibles. Et puis il y a une deuxième nuit qui est la nuit de l'esprit, qui est une épreuve beaucoup plus profonde et plus âpre, qui atteint celui qui s'est déjà donné sérieusement à Dieu. Et si le fruit de la première nuit est une transformation de ma relation à Dieu, la deuxième nuit est une transformation de tout mon être en Dieu. Donc évidemment, cette nuit est beaucoup plus radicale, car elle touche en fait aux racines et aux sens, et elle opère une véritable déification de l'être humain, appelé à vivre de la vie divine de la Trinité. Donc quand on lit Saint Jean de la Croix, c'est très très exigeant, on n'a pas l'impression que c'est pour tout de suite et que c'est pour cette vie. Je pense qu'il y a quelque chose de ce qu'on pourra expérimenter dans l'au-delà qui aujourd'hui doit passer par un certain nombre de nuits et d'épurations pour pouvoir pour qu'on puisse déjà en bénéficier, avoir comme un avant-goût de cette union à Dieu. Alors, Saint Jean de la Croix, ça nous conduit tout naturellement à l'oraison. Et donc, c'est notre dernière partie. L'oraison qu'on peut prendre comme vraiment une intimité de relation avec Dieu. Donc, on voit bien que cette oraison, c'est cette intimité de relation, elle est basée sur l'amour. Et donc, on a le prisme connaître et aimer qui est ensemble. Donc, on a à la fois dans la prière... elle peut être tout à fait, il y a une prière qui est plus liturgique, qui nous donne un enseignement et en même temps qui nous donne une présence. Et cette prière de l'Église, elle est organiquement structurée par les sacrements, qui sont les actes du Christ qui nous régénèrent et nous divinisent. Et finalement, on voit que les mystiques, ce n'est pas des gens qui ont vécu leur relation à Dieu et leur intimité et leur nuit... spirituel tout seul dans leur coin, ils étaient complètement connectés avec la vie de l'Église. Donc tous les progrès en amour, en pleine vie, toutes les connaissances pour accéder à la Trinité, en fait, elles s'appuient sur une expérience, enfin une prière liturgique. Donc c'est pas seulement une prière personnelle, mais une prière liturgique. Et aussi, c'est très intéressant de voir que tous les grands mystiques ont complètement intégré les formulations théologiques. Donc, il ne s'agit pas non plus de jeter la théologie et les discours et les livres au feu, puisque souvent, par intuition, en fait, ils s'y reconnaissent même mieux que parfois des théologiens en prenant une phrase ou en prenant un aspect et en le maturant quelque part ou en faisant leur sel. Et du coup, ça, par intuition, en fait, ils prennent ça. On a la... Thérèse d'Avila qui disait qu'elle préférait le conseil d'un théologien qualifié à la piété d'un prêtre sans doctrine. Donc, elle était assez sévère, Thérèse d'Avila, mais on peut dire qu'elle a eu beaucoup d'expériences mystiques, donc elle savait probablement de quoi elle parlait. Et donc, la dichotomie actuelle entre mystique et théologie, c'est typiquement une fracture moderne entre l'ordre de Dieu, la théologie, et l'ordre du monde, les sciences, entre l'affectif et le ressenti, l'affectif, le ressenti, et l'intellectuel, l'abstrait. C'est très intéressant aussi de voir que les écoles de spiritualité, c'est très récent en fait. En premier Moyen-Âge, il n'y avait pas d'école de spiritualité, il y avait juste la spiritualité. Enfin voilà, on n'avait pas des écoles avec des voies, etc. Et donc ça, on est vraiment dans une époque moderne où on essaye de mettre les choses, de trouver son chemin à soi. Ça, c'est aussi toute la logique du ressenti, etc. Donc on voit que dans ces grands mystiques plus anciens, il y a une vraie fusion, une vraie intégration entre les aspects théologiques et les aspects spirituels, et entre finalement une démarche très personnelle et la prière de l'Église ou tout ce que porte l'Église. Et c'est bien consonant avec ce pourquoi en effet, puisqu'on doit bien avoir une unité de corps, de cœur et d'intelligence, et que c'est dans le péché qu'on est divisé, qu'il y a une séparation entre notre volonté et nos désirs, etc. On voit aussi que dans les termes, c'est très intéressant parce que les théologiens, il y a eu toute une phase un peu théologie ou d'expérience ou de commentaires bibliques qui essayaient de prendre le bon mot, comment est-ce qu'on peut dire, la bonne traduction, etc. Et on voit bien que la Bible, elle est très polysémique. Elle évite de prendre des mots trop précis. Elle a été d'ailleurs construite aussi en plusieurs langues, etc. Et donc, on a cette sorte de richesse du sens qui est le signe de la richesse de Dieu et cette sorte de d'effervescence qui est exactement consonante avec, finalement, la connaissance de Dieu et comment Dieu se révèle. Plein de figures qui nous explicitent. Et quand on voit les textes de Jésus dans l'évangile des Saint Jean, tous ces grands discours, il utilise plein d'images, il dit plusieurs fois la même chose avec des choses un peu différentes. Et tout ça, ça nous donne quelque chose de l'immense richesse de Dieu et ça peut nous faire rentrer dans cette connaissance. Heureusement, au XXe, on a retrouvé avec Newman, Lubach ou Orson Balthazar ou Bouillet cette idée de symphonie entre l'expérience et la théologie, et entre eux, d'ailleurs c'est intéressant parce que même le cardinal de Lubach, quand on lit ses textes, il y a vraiment un mélange de prières tout d'un coup, et puis de textes où il cite plein d'autres théologiens qui ont parlé, et c'est vraiment tout imbriqué, et ça se suit, et ça se nourrit mutuellement. C'est très intéressant de voir la manière dont c'est construit. Donc connaître et aimer n'est pas réservé à certains, parce qu'on a parlé de grands mystiques et de gens très élevés, mais finalement, Saint François de Sales, dans sa vie dévote, il propose ça comme à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut faire oraison à son niveau, de la manière dont il est, et peut avoir cette activité spirituelle d'oraison et de contemplation. Alors une autre Sainte Thérèse d'Avila, dont on a déjà un peu parlé, dans la vie, donc là elle raconte sa vie, en fait, elle a plein d'images pour exprimer l'oraison et pour comment on peut bien faire l'oraison. Donc là, j'ai focalisé sur l'image du jardin, sachant qu'elle en a d'autres sur l'image d'un château avec différentes pièces, qui est une autre forme pour expliquer l'oraison. Donc là, sur les manières d'arroser le jardin, elle dit qu'il y a plusieurs manières d'arroser le jardin. Il y a on prend un arrosoir, il y a on détourne un fleuve, il y a on attend que la pluie tombe. Enfin, voilà, il y a plein de manières d'arroser un jardin. Et donc, elle y voit les différentes manières de faire oraison. Donc, il y a l'oraison méditative, l'oraison de recueillement à fût et de quiétude, l'oraison de sommeil des puissances, voilà, et l'oraison d'union. Donc, tout l'itinéraire spirituel de Sainte Thérèse d'Avila est vraiment basé sur la médiation irremplaçable de Jésus-Christ, par qui nous vient tous les biens. Donc, on met le Christ au centre, et ces différentes formes d'oraison sont une manière de nous irriguer de la vie divine, en fait, et de nous faire comprendre qui est Dieu. Donc pour Sainte Thérèse d'Avila, l'oraison est le milieu privilégié de rencontre entre Dieu et la personne humaine, dans lequel se réalise le miracle de la transformation. Donc c'est pas neutre du tout pour nous. Dieu s'assoit à la table de l'homme et de la femme, aime se promener avec eux pour leur communiquer sa propre nature. De notre part, cela exige à l'intérieur du climat d'oraison une attitude détachée et amoureuse. L'oraison n'est pas une pratique où l'on se recherche soi-même ou des consolations spirituelles, mais la porte où l'action de Dieu a son propre rythme différent de celui que nous avons. Et là, on va avoir toute la thématique de on se met au rythme de Dieu, donc ce n'est pas toujours au moment opportun, et donc chaque oraison est différente. Et parfois, elles sont sèches. Et dans ce rythme, il nous découvrira son amitié et son amour en prenant les rênes de nos vies. Donc Jésus-Christ, dans sa sainte humanité, joue un rôle irremplaçable dans ce processus. En lui, nous sommes sauvés et par lui, Dieu nous donne toutes les grâces nécessaires pour notre transformation à son image. Donc si on l'abandonne, c'est fermer la porte à un progrès quelconque. Alors dans le chemin de la perfection, qui est comme un voyage intérieur vers la plénitude, elle nous dit que l'être humain doit mûrir et doit apprendre à devenir une personne Et les personnes, dans le sens métaphorique, sont des récipients qui peuvent se sentir aussi bien pleins que vides. Plénitude vient de plein, qui étymologiquement veut dire la même chose que rempli. Et donc, ce que propose l'oraison thérésienne, c'est de nous, quelque part, de nous remplir dans sa double dimension pour atteindre la plénitude, qui est la présence et de relation. Donc, c'est à la fois laisser la place et entrer en relation. Donc, un voyage pour nous remplir de Dieu, ou pour mieux dire, pour nous laisser Dieu nous remplir de son amour et de sa vérité. Donc c'est intéressant d'aller regarder les textes de Sainte Thérèse d'Avila sur comment faire oraison. Tout ne parle pas, je trouve que ce n'est pas toujours très facile de rentrer dans son style. Enfin moi je ne trouve pas ça très simple pour moi. Mais elle a des images quand même et des choses assez parlantes. Pour nous décrire, et notamment je trouve que l'oraison comme un jardin où à la fois on prépare, on arrose et en même temps on va se promener avec Dieu, et ben ça nous dit quelque chose de cette oraison qui est à la fois présence et relation. Donc c'est préparer la présence et relation, et être présent là. Alors un petit passage sur tout ce qui est la part de l'affectif et du ressenti. Donc quand on lit Saint Jean de la Croix ou Saint Thérèse d'Avila, on se dit que oulala, surtout, il ne faut rien ressentir dans la prière, parce que sinon, c'est qu'on ne doit pas bien prier. Donc, quand même pas, ce n'est pas exactement ça, même si c'est pas un garant. Donc, finalement, Dieu, il est invisible et spirituel, donc c'est forcément une épreuve pour le connaître, pour notre nature qui est sensible et charnelle et qui a besoin de toucher, qui a besoin de voir, et, etc. Saint Bernard nous dit « Lui qui est l'être de tout être et sans qui tout n'est que néant, chose encore plus admirable, rien n'est à la fois plus présent que lui et plus imprenable. Qu'y a-t-il en effet de plus présent à chaque être que son être? Et qu'y a-t-il cependant à chacun de plus imprenable que l'être de tous? Tous sont de lui et par lui et en lui. Il est l'être présent par excellence. Partout nous devrions pouvoir le rencontrer, partout nous devrions le reconnaître. Dieu transparaît partout. Et pourtant, on a du mal, avec notre nature sensible, à le voir et à le reconnaître et à le... imprenable et à le saisir quelque part. Sainte Thérèse d'Avila, toujours dans la vie, qu'on le sache bien, le véritable amour de Dieu ne consiste pas à répandre des larmes ni dans ses douceurs et cette tendresse que nous désirons d'ordinaire parce qu'elle nous console, mais à servir le Seigneur dans la justice avec force d'âme et humilité. Autrement, ce serait à mon avis tendre toujours la main pour recevoir et ne jamais rien donner. Donc c'est une idée, c'est ça, c'est qu'il faut donner d'abord et puis ben, ça viendra et on reçoit et c'est au rythme de Dieu. Voilà, il y a cette idée aussi de rythme de Dieu qui n'est pas forcément le nôtre. Donc une fois dans la carrière de l'oraison, que nul ne se tourmente, ni ne s'attriste des sécheresses, des inquiétudes, de l'égarement des pensées, s'il veut gagner la liberté d'esprit et ne pas vivre dans une tribulation continuelle, qu'il commence par ne pas avoir peur de la croix. Dès lors, notre Seigneur l'aidera à la porter, la joie régnera dans son âme et tout tournera à son profit spirituel. Donc finalement, retour à la croix, et j'aime bien la dernière partie de la phrase. Quand le puits est à sec, il n'est pas en notre pouvoir de faire jaillir la source, mais il est de notre devoir de veiller pour puiser de l'eau dès qu'il y en aura, attendu que Dieu veut alors par ce moyen multiplier nos vertus. Donc il y a cette idée de rythme de Dieu, qui n'est pas forcément le nôtre, et de s'épurer aussi en laissant du temps au temps, et voilà. Et donc... quand on a décidé de faire oraison, bah on fait oraison. Et même s'il ne se passe rien, même si on est parti dans tous les sens, bah restons concentrés parce qu'on... Voilà, essayons d'être présents à ce Dieu qu'on veut connaître. Donc Dieu touche notre sensibilité, mais la sensibilité ne doit pas diriger notre prière. On a exactement le même parallèle avec les sacrements. Où de fait, c'est très pédagogue de la part de Dieu d'avoir créé les sacrements qui sont une relation qui vient nous toucher un peu plus dans notre dimension charnelle et en même temps on sait bien que voilà, si on attend juste que ça nous, l'impression que ça nous transforme ou la sensibilité quand on reçoit l'hostie, ben non, il y a déjà à découvrir qui est cette hostie et à essayer d'être présent à ce grand mystère et on n'a pas forcément la sensibilité, enfin l'impression, une impression sensible. Alors pour finir, parce que vraiment pour pouvoir s'envoler vers Dieu, ben on a besoin de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, je disais, c'est Dieu qui nous attire à lui, c'est la gravitation universelle inversée. Et finalement, ses ailes et ce qui nous permet de nous envoler vers lui, c'est l'Esprit-Saint. Ce que disait la petite Thérèse de Lisieux, c'est les ailes d'aigle de l'Esprit-Saint. Alors, nous sommes le temple de l'Esprit-Saint, donc à la fois, il est en nous nous sommes le temple de l'Esprit-Saint, pardon, et en lui, temple de Dieu et de la Trinité tout entière. Donc à la fois l'Esprit-Saint, il est en nous et il est notre, et en même temps, il est notre guide et notre moteur pour nous envoyer sur le chemin du Christ et nous envoyer vers le Père. Et donc c'est lui, quelque part, qui nous fait, qui réalise en nous cette intimité spirituelle et de cœur pour pouvoir vraiment... que tout notre être naisse à la vie même de Dieu et puisse même voir Dieu. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu dans 1 Corinthiens. Je pense qu'il y a quelque chose sur l'Esprit Saint qui est vraiment qui nous habite et en même temps qui est le moteur qui nous, de la relation. On a dit quand on a parlé de l'unité, la triunité, que l'Esprit Saint était le trait d'union entre le Père et le Fils. Ben, il est aussi le trait d'union entre nous et le Père et le Fils, et donc c'est lui qui réalise ce lien et c'est lui qui est notre, à la fois qui nous pousse, qui est cette présence en nous de Dieu et en même temps qui nous pousse à dire Abba Père, voilà, à nous exprimer et à sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu. L'Esprit Saint vient assurer à notre esprit, sans lui enlever son élan, la possession tranquille de son objet. Donc c'est lui aussi qui nous garantit la foi, qui nous donne la foi et l'espérance et la charité. Donc il est aussi celui qui nous donne les grâces. Il introduit en nous comme une dimension nouvelle, la vie de charité nous faisant participer à la vie même de Dieu, fournie par là même à notre idée de Dieu comme un contenu spirituel. Donc ça c'est aussi toute la thématique, quand Jésus nous a envoyé l'Esprit, il a dit un autre défenseur, il vous fera connaître, il vous fera tout, je ne sais plus la phrase exacte, il vous fera tout connaître. Il vous rappellera tout ce que j'ai dit et vous le fera connaître. Donc on a ce, voilà, il y a un contenu, c'est pas juste un souffle du sentiment, c'est aussi celui qui nous enseigne. Nul à proprement parler ne connaît Dieu sinon Dieu seul, et donc l'Esprit nous donne de le connaître en quelque mesure car il nous assimile à lui. L'Esprit nous donne de Dieu la seule connaissance qui soit à son niveau, parce que finalement l'Esprit, c'est Dieu, et du coup, il a cette connaturalité dont a parlé tout à l'heure saint Thomas d'Aquin. Le semblable connaît le semblable. Et donc, l'Esprit Saint, en nous configurant au Christ, nous permet d'être, pas sur un pied d'égalité, parce qu'on ne le sera jamais, mais quelque part sur un meilleur pied pour pouvoir le contempler et le connaître. Nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables. Donc dans la première lettre de Saint Jean, donc tout le terme de semblable est à l'image d'eux, donc on est vraiment sur cette logique-là, donc on sait qu'on n'est pas à égalité avec Dieu, mais il nous donne d'être sur un pied d'une certaine forme de semblable. L'Esprit Saint nous donne un surcroît de connaissances qui n'est pas rationnel ou philosophique, il se réfère à une expérience. Et là on peut faire le parallèle avec toutes les thématiques autour de la lumière, il y a aussi cette idée d'illuminer, dont on a parlé tout à l'heure, mais de mettre en pleine lumière et finalement de donner tout le prisme de la lumière au-delà de ce que notre rationalité ou notre pensée ou notre connaissance ou notre sensibilité pourrait découvrir de Dieu. Et donc il nous donne ce plus qui nous permet de vraiment le découvrir tel qu'il est. Il a le caractère privilégié d'intimité personnelle et d'intuition concrète qu'à toute connaissance religieuse. C'est une connaissance simple et quasi immédiate. Et donc, on est bien dans ce mix de la connaissance qui est à la fois théologie et mystique, qui est à la fois intelligence et amour, et qui finalement est très foi, espérance et charité, en fait. Et on a bien cette forme de connaissance qui allie toutes ces dimensions-là et qui en fait une connaissance à la fois par intuition et en même temps avec une logique et une forme qui embarque l'intelligence. Donc il ne s'agit pas de faire juste la foi du charbonnier, mais vraiment d'avoir aussi ce plein pied que nous donne l'Esprit Saint pour pouvoir découvrir qui est Dieu. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. En conclusion, deux petites phrases. Donc, Saint Augustin, celui qui aime voit l'amour et qui voit l'amour voit Dieu. Donc, on a bien cette thématique que pour connaître Dieu, il faut vouloir l'aimer, comme pour connaître un être. Si on juste essayer de le connaître comme un objet de connaissance, on ne le connaîtra jamais comme un sujet et donc on ne le connaîtra pas. Et puis Guillaume de Saint-Thierry, cet amour est l'œil même qui fait voir Dieu. Donc là, ça réfère tout à fait au paragraphe qu'on vient de lire sur la partie Saint-Esprit. Voilà, c'est l'amour qui nous donne les bonnes lunettes pour voir Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut unir ce qui paraît opposé, donc la méditation et la contemplation, l'intelligence et la sensibilité, la théologie et la mystique, le côté dynamique et le côté demeuré, écouter et dire. Donc, on est vraiment sur toutes ces oppositions dont on a parlé quand on veut décrire Dieu. Ça paraît opposé, mais en fait, avec le « et » de l'Esprit-Saint, qui unit les choses et qui est le trait d'union, et bien en fait, c'est en prenant tout ça ensemble qu'on va pouvoir, tout notre être va pouvoir courir vers Dieu et que finalement, on va pouvoir connaître Dieu parce qu'il en a besoin de toutes ces dimensions-là pour le connaître. Donc la connaissance de Dieu, elle est vraiment intégrale et intégrative parce qu'elle est de la nature de l'amour. C'est la Trinité qui se donne et nous donne de l'aimer en retour. Et donc, il faut qu'on dépasse infiniment nos... Voilà, on ne peut pas faire des catégories et le faire petit bout par petit bout. Il y a quelque chose de prendre la totalité de Dieu pour pouvoir essayer de le connaître. Donc la connaissance de Dieu nous dépasse infiniment, car Dieu nous dépasse infiniment. Et en même temps, elle comble notre désir, car nous sommes faits pour Dieu. Il nous donne les moyens de découvrir. C'est le Saint-Esprit, le don de la foi, la grâce du Saint-Esprit qui nous permet d'entrer dans cette théologie amoureuse, qui nous fait mourir au monde pour entrer dans l'intimité de Dieu. Et on aura bien besoin de toute l'éternité pour découvrir, dévoiler ce mystère. Voilà sur la connaissance de Dieu.